Jean-Jacques Friedman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. On va parler avec vous de votre allocation d'actifs et les perspectives sur les marchés financiers. Comment vous aviez vu, vous, l'année 2018, de votre point de vue, en termes d'allocation d'actifs, quels étaient les points forts?
Alors nous avions préparé l'année 2018 dès la fin de 2017. On avait été traditionnellement, historiquement, très longtemps surpondéré, parfois de manière importante. Là, nous étions revenus à la neutralité. Pour nous, il y avait à la fois une situation fondamentale qui est bonne. Il y a de la croissance, il y a une augmentation des bénéfices par résultat dans beaucoup de zones économiques. Mais en termes relatifs, le marché devait apprendre plusieurs éléments négatifs selon nous. Un retour possible au moins des éléments inflationnistes. Enfin, il y avait des débats possibles et donc il fallait absolument protéger les portefeuilles et donc se dire que la crise, si crise il y avait, elle aurait pu être grave au second semestre. Et nous ne voyions pas ces éléments survenir au second semestre, mais au premier. C'est ce qui s'est passé pour nous en partie. Oui.
Alors justement, il y a eu un thème en début d'année, c'est celui de l'inflation qui est venu comme ça impacter les marchés. J'ai envie de dire aujourd'hui, elle est passée où l'inflation? Plus personne n'en parle.
C'est presque un thème évident. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que non pas qu'il y a de l'inflation, mais qu'au moins ça doit faire débat. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, que durablement l'inflation serait morte, que jamais les salaires n'augmenteront, c'est ça qu'on conteste. Donc en début d'année, il y avait l'idée qu'avec des prix de la production qui augmentaient dans certains pays émergents, aux États-Unis, mécaniquement, ça devait se retrouver sur les CPI avec des salaires qui augmentaient, avec un dollar plus faible et donc de l'inflation importée. Tous ces éléments devaient conduire à ce que certains chiffres de l'inflation sortent et fassent débat, ce qui a été le cas. Donc si elle est encore présente. Aux États-Unis, on voit bien qu'elle est durablement un peu au-dessus de 2%. Alors, il ne faut pas penser qu'elle accélérera fortement. Elle va accélérer doucement. Elle est absente en Europe. On a un 0,7% au cœur d'inflation. Donc, c'est la divergence très forte, d'ailleurs, de cycle économique et ses conséquences sur l'euro-dollar qui sont en train de jouer. Mais aux États-Unis, oui, c'est en effet un sujet de débat.
Alors, c'est vrai qu'on parle peut-être un peu plus, il faut être exact, du pétrole, puisque le pétrole a quand même accéléré sa hausse. Et là, il y a peut-être de nouvelles questions qui se posent, puisque là, on peut se dire que l'inflation peut effectivement progresser.
Oui, alors on pensait l'évoquer avant même cette histoire de pétrole. Cette histoire de pétrole qui n'est plus corrélée à une hausse de la demande comme ça avait été en 2017. Le pétrole avait été très impacté par la demande qui avait été extraordinairement forte, notamment en 2017. Mais aujourd'hui, c'est à la fois les problèmes de l'Iran, bien sûr, du Venezuela, une forme de retard peut-être à l'allumage sur certaines productions aux États-Unis. Donc tous ces éléments pèsent sur l'offre et fait que si on a un pétrole plus élevé, c'est encore un élément supplémentaire qui vient rogner du pouvoir d'achat du consommateur américain. Et ça, c'est un élément supplémentaire à prendre en considération, en effet, oui.
Alors le débat sur les taux, lui, reste bien sûr d'actualité. On avait vu finalement des investisseurs ne pas croire la réserve fédérale américaine sur en tout cas son planning en quelque sorte de hausse de taux 2018. Mais ça évolue aussi. De ce point de vue-là, est-ce qu'on a une vision assez claire de ce qui peut se passer aux États-Unis?
On a peut-être été crédule, mais nous, on a cru. On n'a pas eu cet élément de défiance vis-à-vis de la Fed. Et donc la Fed a fait ce qu'elle a dit et elle devait le faire parce que si elle ne le faisait pas, le risque, c'était qu'au moment où la croissance un jour calerait, si les taux n'avaient pas, elle était déjà en retard, si les taux n'avaient pas monté, elle risquait d'être en difficulté. Donc, c'était absolument nécessaire qu'elle le fasse, elle l'a fait. Alors maintenant, le balancier part dans l'autre sens, et parfois, le marché croit plus à des hausses de taux que ce que la Fed même annonce. Et d'ailleurs, lors de la dernière minute, finalement, de la Fed, elle a dû modifier son discours pour démontrer que les hausses des taux, elle n'allait pas s'emballer, donc elle avait un programme et qu'elle respecterait son programme. Donc la lisibilité de la Fed est quelque chose de positif. Sur les taux longs, ça a monté peut-être un peu plus que ce que le marché anticipait. Nous, on ne pense pas qu'on va aller dans les zones critiques de 3,5-4%. Là, ça inquiéterait le marché. Et on pense que durablement, avec justement la Fed, il ne va pas relâcher le papier qu'elle a acheté, les taux ne vont pas converger vers leur taux théorique qui inquiéterait le marché en effet.
Alors il y a toujours cette idée que les banques centrales sont à la manœuvre, effectivement, avec ces injections de liquidités, ce qui rassure certains investisseurs. Est-ce que ça vous rassure aussi? Effectivement, on se dit qu'à un moment donné, quand même, elles doivent normaliser leur fameuse politique. Alors ça traîne, on vient d'en parler, mais est-ce qu'en 2018, c'est pas le moment de commencer vraiment une vraie normalisation?
Alors elles normaliseront au niveau des taux en partie, des taux courts. Il y aura même des conséquences pas complètes, non pas sur les taux longs, mais au niveau des bilans, non, ça ne sera jamais normalisé. On ne reviendra pas aux situations antérieures qu'on a connues. Non, ça, non.
Alors, du côté des entreprises, qui est un facteur, bien entendu, de soutien, est-ce que là, les nouvelles sont bonnes, c'est-à-dire que les perspectives, les publications rassurent aussi l'investisseur?
Mécaniquement, la croissance attendue à la fois en Europe et aux États-Unis doit conduire à une hausse des BPA. C'est ce qu'on a eu en Europe, même s'il y a des petites déceptions en termes d'indicateurs avancés, mais en termes de résultats, c'est là. Les résultats américains, bien sûr, ont été factices, faussés par les mesures fiscales de Donald Trump. Donc c'est comme un fusil à un coup. Donc là, on a eu des chiffres d'un derrière sur l'autre, d'un trimestre T1 2018 comparé à 2017 qui serait supérieur à 20%. Donc là, on voit bien que les mains factices, ça a simplement permis de remettre des marchés qui étaient chers à des marchés moyens chers aux États-Unis. Mais d'ailleurs, ce qui est notable, c'est que nous, qui historiquement, comme je vous le disais, étions plutôt surpondérés, il n'y a plus que dans les phases de publication des résultats qu'on se remet surpondéré. Sinon, on a une allocation stratégique plus proche de la neutralité. En effet, donc oui, les résultats seront présents et c'est ça encore la force de soutien des marchés.
Alors, il y a un sujet d'inquiétude, on l'a vu avec la volatilité, c'est l'Italie. Alors, on pourrait dire, tiens, les investisseurs anglo-saxons, ils avaient joué à un moment donné avec la Grèce il y a quelques années, 2011, la sortie, l'éclatement de la zone euro. Ils pourraient avoir envie de rejouer le scénario avec l'Italie, qui est quand même un plus importante que la Grèce en termes
Oui.
pour
Alors,
l'Europe.
en effet, il ne faut pas minorer cet élément. C'est un élément grave, c'est une grosse économie, c'est un pays fondateur, c'est absolument central. C'est un pays qui a 135% de dette par rapport à son PIB, même si c'est détenu par des domestiques. Donc, il y a danger. On n'est pas quand même de retour sur la situation donc quelques éléments simplement, c'est que. À la fois en termes d'action, bah c'est presque le marché qui performe le mieux depuis le début de l'année avec le marché français, avec le CAC. En termes de taux d'intérêt, il y a des tensions. C'est-à-dire qu'on avait un spread qui était fortement réduit. Et là, on perd le bénéfice finalement d'une amélioration d'une année de spread finalement depuis les élections à la fois néerlandaises et françaises du début d'année 2017. On ne croit quand même pas qu'on va revenir à la situation de 2011. C'est-à-dire que justement, l'exemple de la Grèce démontre qu'à la fois la pression de l'Europe, en plus il y a une pression interne avec le président de la République italienne, mais à la fois la pression de l'Europe et la pression des marchés fait qu'on ne pense pas, nous, qu'on va revenir à cette situation. L'Italie a permis finalement, à la fois, elle a eu un impact important. Il y a plusieurs impacts. Il y a à la fois un impact finalement de faiblesse de l'euro qui a aidé paradoxalement les marchés européens. Mais on ne pense pas du tout qu'on va revenir à la situation de. Alors, il faut être modeste dans ses propos, mais c'est pas notre scénario central et le marché d'ailleurs ne le prend pas comme scénario central.
Alors, dans un nouveau contexte, en période de marché, c'est vrai que l'Italie est venue s'inviter quelque part. Comment évolue l'allocation d'actifs? Parce qu'il y a certains, on le voit, qui redoutent clairement un krach. Alors, soit pour des raisons géopolitiques, parce que tous les jours, on va dire, on a des alertes géopolitiques, on a des sujets économiques, on en a parlé. Comment ça peut évoluer?
Oui, mais c'est ça qui nous semble intéressant justement, c'est-à-dire que nous, là justement, on l'a fait vraiment au tournant de l'année 2017-2018, en sortant justement des classes d'actifs qui pouvaient cumuler du risque avec les actions, donc sur des petites valeurs et sur des obligations high yield notamment. Ce qui nous semble intéressant, c'est que le marché a appris finalement à intégrer au fur et à mesure ces mauvaises nouvelles-là. Donc à la fois l'élément de l'Italie, à la fois l'euro qui avait baissé et qui explique une partie de la hausse, notamment des valeurs expatriées européennes et du bon comportement, tout ça nécessite une consolidation du marché européen, ça c'est très clair. Par contre, cette consolidation, pour nous, c'est une forme de consolidation qu'on estime être quand même plutôt une consolidation à plat ou avec un mouvement d'amplitude assez faible. C'est vrai qu'à court terme, on a plutôt envie de revenir, notamment sur les marchés émergents, après la peur qu'ils ont eue à la fois avec la hausse du dollar et la hausse des taux, et plutôt cette forme de consolidation sur l'Europe. Mais je disais que ce qui était difficile en début d'année, c'est que le marché était sourd, aveugle, ne voulait rien voir, alors que là, il a vu les différents problèmes, et finalement, c'est mieux qu'on en débatte, qu'on en parle, que la situation, je veux dire, euphorique qu'on connaissait au cours des premières semaines de janvier.
Merci Jean-Jacques Friedman.
Merci beaucoup, Didier.